Poker Menteur. Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur. L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Galade 100.9.
Auditeurs de Calade, bonsoir. C'est Poker Menteur, votre émission mensuelle favorite. Alors, vous savez, généralement, nous commençons Poker Menteur très rapidement par la chronique géopolitique de Jean-François. Mais ce mois-ci, eh bien, pas de chronique géopolitique. Vous allez me dire pourquoi. Est-il puni? Pas du tout. C'est tout simplement parce qu'il est présent sur le plateau et nous allons parler géopolitique toute la soirée. Puisque nous allons parler de quoi, Jean-François?
Nous allons parler de l'Afghanistan.
Ouais, tout à fait. En présence de...
Geneviève
également, tout à fait. Geneviève, que vous retrouvez sur tous ensemble sur Calade un mercredi sur deux pour une chronique géniale qui s'appelle Histoire de femmes, femmes d'histoire. Ou c'est l'inverse, je ne sais plus.
Non, c'est tout à fait ça, Patrick. T'as bien retenu, mais c'est toi, Patrick.
Merci, Geneviève. Alors, pourquoi l'Afghanistan? Eh bien, en fait, parce que l'attention médiatique, généralement, est toujours de courte durée. Quand il se passe des événements, comme par exemple, tiens, les Occidentaux qui s'en vont d'Afghanistan fin août, eh bien, on en parle énormément dans l'actualité médiatique, et puis après, plus rien, on ne sait plus. Or, il nous a semblé que cet événement était d'une ampleur assez importante, assez lourde, et ça nécessitait non seulement qu'on y revienne, mais qu'on prenne du recul et qu'on apporte un peu plus d'informations historiques sur qu'est-ce que c'est que ce pays vraiment compliqué, qui n'arrive pas à se sortir de ces situations rocambolesques et assez dramatiques. Donc, on s'est rassemblé avec nos historiens de haut niveau que sont Geneviève et Jean-François, et on va se lancer là-dedans. Alors, honneur aux dames, hein, toujours. Donc, on va commencer par Geneviève qui va nous faire... tu vas reprendre l'aspect historique en remontant assez loin, hein, de l'Afghanistan.
Complètement, Patrick. J'accepte complètement ma mission. On va faire de l'histoire depuis le début et de la géographie pour démarrer. Parce que, en clair, l'Afghanistan. Oui, l'Afghanistan. Mmh, alors... Mmh. On visualise bien l'Afghanistan?
Non, pas
là,
du tout. Déjà, on demande où est-ce que c'est. Personne n'est capable de le dire.
C'est-à-dire qu'en clair, sur une carte, quelles sont les images qui nous viennent en tête? On voit des images de guerre, ça c'est certain. Ouais. Des militaires dans les rues. Bon,
et des montagnes. Des montagnes.
Des montagnes, bah, c'est pas mal, c'est des montagnes.
Ouais, ouais, ouais.
Alors déjà, on imagine un territoire quand même grand, plus grand que la France.
Ah ouais.
Voilà, avec des montagnes, effectivement, les deux tiers du pays, avec des sommets qui culminent à 7485
mètres. Ah oui, c'est pas des petites montagnes,
voilà.
C'est des vrais de vrais.
C'est des vrais de vrais, difficiles à traverser. Le sommet, donc le plus haut, le Nauchak, marque la frontière avec le Pakistan.
Ah, le voisin encombrant.
Le voisin. Et justement, ça c'est le deuxième aspect important quand on a la géographie en tête, c'est de bien comprendre qu'en fait, eh bien, l'Afghanistan, c'est une plaque tournante entre... le Pakistan, mais pas que. L'Iran, le Turkménistan, pardon, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et même la Chine sur une petite langue de terre de 70
km. Voilà. Donc des pays ex-URSS, plus Iran, plus Pakistan, plus un peu la Chine.
Ouais.
Et l'Inde aussi. Alan, les frontières directes, l'Inde?
Pas une frontière directe.
Indirecte, elle n'est pas
indirect,
très loin.
Mais là, tu viens de bien cerner les choses, c'est-à-dire qu'en fait, tout le propos, si je devais résumer, en fait, hein, de ce petit brief historique, c'est qu'en clair, l'Afghanistan a toujours eu des liens très forts depuis la préhistoire avec l'Iran et l'Inde.
D'accord.
Voilà. Du coup, je récapitule.
Ouais.
Donc, des montagnes, pas d'accès à la mer. En clair, on pourrait quand même se dire, qu'est-ce qu'il a d'intéressant ce pays, quoi.
Bah ouais.
Ouais. Pourquoi est-ce que d'un coup, il ressort dans l'histoire, mais que finalement, il a toujours été au cœur de toutes les routes commerciales? Parce que finalement, l'Afghanistan, c'est un verrou. Mmh. C'est un passage obligé. Un carrefour, donc, on en avait parlé dans d'autres émissions, sur la route de la soie.
Oui.
Si je vous dis maintenant, Alexandre le Grand, Darius, Genghis Khan... Ça
c'est
vous
des
parle?
Potes à moi, ouais. Je les ai un peu perdus de vue, mais ouais.
Et ben on va en reparler, parce
très
que figure-toi
bien.
Qu'ils ont tous, à un moment donné, apposé leur autorité sur le territoire afghan.
D'accord.
Tous.
Donc l'intérêt, c'est que c'est une zone de passage incontournable pour toutes les routes, pour beaucoup de routes commerciales dans l'histoire.
Exactement. C'est un verrou.
D'accord.
Littéralement. Et un verrou qui remonte, bien finalement, à l'âge de bronze.
Ah ouais.
Ouais, je te l'avais promis, hein, j'accepte ma mission, je pars du début. Hein. Donc l'âge de bronze, on remonte donc à un site archéologique qui s'intitule Mundigak, donc qui a été le fait de plusieurs expéditions, notamment d'archéologues français. Donc c'est à quelques kilomètres de Kandahar, voilà, donc plutôt dans le sud-est du pays. Et donc les archéologues ont mis à jour un des plus beaux trésors de l'Antiquité. Voilà, avec des pièces extraordinaires qui, heureusement, n'ont pas toutes été raflées par les talibans, donc qui ont été montrées d'ailleurs en France il y a quelques années, il y a une dizaine d'années à peu près, donc comme une expo vraiment majeure. Et donc cette zone donc importante depuis la préhistoire a ensuite été conquise par le fondateur de l'Empire perse.
J'ai son nom sur le bout de la langue, mais Jean-François, Darius. Je préfère lui laisser dire.
Presque, hein. Presque. Cyrus le Grand.
Oh non.
Encore avant, au 6e siècle avant Jésus-Christ.
Jean-François, tu me déçois.
Oui.
Ouais, moi, j'ai mes notes, hein, c'est plus facile. La Pax Iranica, qui va régner donc pendant deux siècles sur ce carrefour et qui va permettre à la Perse de rayonner sur toute l'Asie du Sud-Est. C'est dans ce contexte donc que les idées du prophète Zarathoustra...
Ah, alors, le fameux.
Ouais, le fameux dont on a beaucoup parlé grâce à Nietzsche. Hein.
Grâce à Frédéric, ouais.
Donc je fais juste un tout petit rappel. Donc Zarathoustra, donc, qui est né en Afghanistan, voilà, est un grand prophète qui a été justement important dans le passage entre le polythéisme et le monothéisme. Et donc Zarathoustra avait, si je fais une explication rapide, une idée importante en tête, c'est qu'en fait, en chaque homme, il y a une part de bien et une autre de mal, et que c'est à chacun de choisir entre ces deux parties. Donc, une vision philosophique qui va vraiment essaimer sur toute l'Asie du Sud-Est, en même temps donc, que l'influence de la Perse.
D'accord.
Voilà, donc petit saut dans le temps, on arrive en 330 avant Jésus-Christ, cette fois-ci on va parler d'Alexandre.
Ah.
Ouais, vous voyez, il nous en manquait hein, quand même de grands conquérants.
Ouais.
Donc Alexandre, lui aussi, va s'intéresser à cette région et il va créer un vrai syncrétisme, une vraie symbiose culturelle entre la Grèce, l'Iran et l'Inde. Malheureusement, à sa mort, le territoire se divise et il faut attendre le 2e siècle avant Jésus-Christ pour retrouver une véritable unité. Donc, qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Ben, plein d'invasions, en fait, des invasions notamment ariennes, qui vont amener le bouddhisme voilà, sur le territoire afghan.
Ariennes, ils viennent d'Inde ?
Oui, tout à fait.
D'accord.
Ouais, complètement. Et donc, le bouddhisme va devenir la religion prégnante, en fait, sur ce territoire. Et donc, c'est aussi à cette époque que vont être érigés les grands bouddhas de Bamiyan.
Voilà. Les fameux grands bouddhas
voilà,
qui furent maltraités ensuite par nos amis les talibans.
Ouais,
on en reparlera, bien sûr.
On en reparlera. Voilà, donc cet essor du bouddhisme est seulement freiné par le retour en force de l'Iran. Donc cette fois-ci, je suis au 3e siècle. Et les invasions des Huns blancs ou turco-mongols qui font régner insécurité et oppression jusqu'au haut Moyen-Âge.
D'accord.
Nouveau saut de puce. Cette fois-ci, on arrive en 650 avec l'invasion des armées arabes qui occupent le pays. Mais ces armées, en fait, elles se heurtent à une vive résistance qui empêche toute arabisation. Toute islamisation.
Ouais, ah
le pays va vraiment faire une résistance active à ces nouvelles idées religieuses.
Ils sont plutôt bouddhistes à l'époque, alors.
Exactement. Et ils restent vraiment imprégnés de cette culture.
D'accord.
Et il va falloir attendre quasiment la fin du 9e siècle pour que Kaboul, donc qui était aussi la capitale à cette époque-là, soit converti massivement à l'islamisme.
Ok.
Dans le nord, donc des Iraniens, originaires donc de Saman, près de Balkh, qui vont également prendre le territoire, qui vont prendre autorité. Mais les mercenaires turcs qu'ils recrutent amènent une ère nouvelle, avec davantage d'échanges entre ces différentes cultures. Donc je rappelle, hein, le bouddhisme, la philosophie de Zarathoustra, l'islam. Voilà. Et donc il y a une forme de creuset culturel et religieux qui se met en place.
Ouais,
complètement.
D'accord.
Et donc vont se succéder plusieurs chefs arabes, donc à la tête de différentes dynasties, qui vont asseoir leur domination jusqu'à Ispahan et qui vont lancer pas moins de 17 expéditions sur l'Inde.
D'accord.
De Ghazni, donc une ville rivale de Bagdad, ils vont faire un centre remarquable où brillent artistes et écrivains. Parmi eux, notamment Ferdousi, qui est le poète national de l'Iran.
D'accord.
Donc, l'Afghanistan est aussi une capitale culturelle.
D'accord.
Rayonnante.
Mm-hmm.
Ça, c'est bien de l'avoir en tête.
Ouais.
Donc, cette dynastie est bientôt, malheureusement, obligée de reconnaître la suprématie d'autres dynasties turques, les grands Seldjoukides d'Iran. Et ils disparaissent sous le coup de princes afghans qui vont reprendre leur indépendance. Je fais un autre petit saut de puce, cette fois-ci jusqu'au 11e et 12e siècle, époque à laquelle l'Afghanistan, donc, qui est quand même toujours majoritairement bouddhiste, va sombrer sous l'invasion de Genghis Khan.
Ah, Genghis Khan.
Genghis Khan, qui va s'acharner particulièrement sur ce pays.
Donc, qui vient du nord, quelque part, je ne sais pas par où il passe, parce que c'est la Mongolie, je ne sais pas s'il passe par la Chine.
La Chine.
Par la Chine,
l'Ouzbékistan.
D'accord.
Il envahit donc tout ce territoire.
Il va rouster tout le monde.
Rouster tout le monde, c'est ça.
C'est un peu son style, hein, Genghis Khan.
Oui, on peut parler d'une véritable... Une véritable catastrophe donc, pour ces populations, qui voient passer Genghis Khan et qui vont voir passer ensuite Tamerlan, qui va être lui aussi une véritable catastrophe pour
Tamerlan,
les populations.
Tamerlan, c'est qui ça, ce Tamerlan ?
Eh bien, c'est un redoutable guerrier turco-mongol.
Ah, d'accord, que je ne connaissais pas.
Qui se met un peu aussi l'héritier de celui dont on a parlé précédemment.
Genghis.
Ah, d'accord, voilà. Ok.
Et qui se fait couronner à Balkh en 1370, donc au nord du pays. Mm-hmm. Il va mettre en place un nouvel empire, très riche, très rayonnant, mais à quel prix ? Puisqu'il va décimer à lui tout seul à peu près 5% de la population mondiale.
Ah bon ? Mondiale ?
De l'époque, complètement.
Ah oui, effectivement.
C'est le paradoxe de cet homme, c'est-à-dire que d'un côté, il est responsable d'une purge...
Terrible.
Mm-hmm. Il est extrêmement sanglant et il s'en prend systématiquement à toutes les populations qui s'opposent à lui. Ouais. Et en même temps, il va mettre en place une dynastie et une culture d'une finesse absolument inégalée pendant plusieurs siècles.
D'accord.
Voilà. Eh bien, Tamerlan, il a un fils aussi,
voilà,
qui va aussi s'occuper de cette région.
Ouais.
Et donc, ce fils, il s'installe à Kaboul. Et il va faire de Kaboul donc un véritable petit paradis avec des jardins absolument magnifiques. Il conquiert l'Inde. Il fonde une nouvelle dynastie, dite des Grands Mongols, qui va durer de 1526 à peu près à 1707.
Ces gens-là, les Mongols, ils ne sont pas musulmans, si je ne dis pas de bêtises.
Alors, si.
Si, ils sont musulmans. Genghis Khan, déjà, était musulman ? Non, je ne crois pas.
Non, pas véritablement.
Je ne pense pas, mais après, ils sont
musulmans. Tu parles des Mongols, là, c'est ça ?
Mogols.
Ah, des Mogols, je confonds, autant pour moi. Bon, d'accord. J'étais encore sur les Mongols. Non, les Mogols sont musulmans, alors. Donc, Tamerlan, il est musulman ?
Tamerlan est musulman.
Ah, ok. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Je t'ai coupé, je suis désolée.
C'est pas grave, Patrick, je reprends mon fil, ne t'inquiète pas, je m'adapte. Donc c'est important, ceci dit, ce que tu es en train de souligner, parce que ça montre bien qu'il y a aussi petit à petit une bascule.
Oui, voilà. Une montée en puissance,
c'est-à-dire
de la domination musulmane.
Voilà.
Et un recul, je présume, du bouddhisme.
Des idées bouddhistes.
Progressif. Et aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus de bouddhistes.
Ils ont été tellement chassés, pourchassés, interdits...
Ok, d'accord, très bien.
Effectivement, aujourd'hui, on a cette dominance musulmane. Mais on le verra, dominance entre sunnites et chiites,
qui est compliquée.
Qui rend les choses compliquées, effectivement. Alors, je note quand même que tu fais allusion au fait que petit à petit, le pays bascule du côté musulman, mais en même temps, avec une vraie tolérance.
D'accord.
Voilà, ça c'est encore une idée reçue qu'on pourrait avoir. Mm-hmm. Très clairement, il y a toute une vraie harmonie entre toutes ces religions. Et donc, hindous, bouddhistes, musulmans vivent du coup sur ce territoire sans politique de prosélytisme.
D'accord.
Voilà. Par contre, petit à petit, les choses se corsent. Et à la fin donc, de cet empire des grands Mogols,
en 1707, pas Mongol,
le dernier empereur est véritablement intolérant. Il va interdire cette religion, et ce qui va provoquer des révoltes fortement réprimées. Et à la mort de ce dernier grand Mogol, ce sont les opposants qui vont prendre le pouvoir, donc à savoir les Bharats, qui vont former une confédération. Et donc ces Bharats, en fait, c'est un nom qui, au départ, veut dire caste hindoue, de guerriers.
Ouais.
Et donc ces guerriers vont reprendre le pouvoir sur le territoire afghan. Sauf que les Afghans ne vont pas du tout se laisser faire. Et que les princes, justement, vont profiter de cette perte de vitesse de leurs grands voisins indiens pour reprendre leur indépendance. Et on peut dire même que ça va être la naissance de l'Afghanistan moderne.
D'accord.
Voilà.
D'accord. C'est la fin des empires et le début de l'Afghanistan moderne.
C'est ça. Et ils vont même d'ailleurs, mais peut-être après je prends le pas sur ce que Jeff va nous expliquer ensuite. Mais donc ces Marathas, du coup, vont même réussir à se coaliser et à chasser... les Afghans vont chasser les Marathes, ce qui va faciliter, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, le travail des Anglais.
Très bien.
C'est ce qu'on va voir maintenant.
Voilà. Très bien.
Jeff.
Eh bien, nous allons passer la parole à Jean-François qui va prendre la suite. On est à peu près à quelle période au début de ton
présentation ? Alors maintenant, moi, je commence au début du 19e siècle.
Voilà, on passe au 19e siècle. On t'écoute.
Merci. Alors, je vais vous parler surtout de ce qu'on appelle le grand jeu qui débute donc au 19e siècle. L'émirat d'Afghanistan se trouve alors confronté aux ambitions des grandes puissances impériales.
Ah oui, parce que là arrive l'Occident et les velléités coloniales.
Tout à fait. Et notamment, celle du Royaume-Uni et de la Russie tsariste,
ouais,
qui s'intéresse à l'Afghanistan. Alors, l'expression « grand jeu », elle est formulée par Rudyard Kipling dans son roman « Kim » paru en 1901. Et ce grand jeu, donc, ça désigne finalement la rivalité entre les empires russes et britanniques pour la suprématie en Asie centrale au XIXe siècle.
D'accord.
Les motivations de l'empire maritime britannique et de l'empire continental russe sont différentes. Le premier souhaite protéger son joyau, la colonie des Indes, alors que le second recherche un accès aux mers chaudes de l'Asie du Sud.
D'accord. Oui, les Russes voudraient avoir un accès aux mers du
Exactement,
Sud.
Ouais.
Et les Anglais, ils sont vieux et ils sont bien, donc ils n'ont pas envie de laisser la place aux Russes.
Exactement.
D'accord.
Ainsi, depuis la fin du XVIIIe siècle, l'Empire russe s'étend vers le Sud, le Caucase et l'Asie centrale, tandis que la Grande-Bretagne tente de constituer un glacis protecteur au nord-ouest de l'Inde, afin d'éviter une influence trop forte de la Russie auprès des souverains iraniens notamment. Pour ce faire, la Compagnie des Indes orientales britannique impose par la force, là on est vraiment sur du militaire, à Kaboul, un monarque à sa solde en 1838.
D'accord, ouais.
Mais ce monarque est chassé du pays par la population afghane dès 1842. C'est ce qu'on appelle la première guerre anglo-afghane, qui se solde par une défaite assez cuisante de la part des Britanniques.
Ah ouais ?
Ouais, le corps expéditionnaire, en fait, s'est fait massacrer, en fait, finalement, après Peshawar.
D'accord.
Et finalement, ils ont laissé vivant qu'un seul soldat pour pouvoir témoigner de ce qui s'est passé.
Ah ouais, pour qu'il aille raconter comment ils se sont fait dérouiller.
Voilà, exactement.
D'accord.
Ouais. Les Russes connaissent aussi des déboires dans leur volonté hégémonique, et plusieurs expéditions tsaristes lancées depuis la Sibérie ou la Caspienne demeurent infructueuses. Malgré tout, la Russie tsariste, elle ne reste pas inerte et parvient à avancer. Notamment, ils prennent Tashkent en 1865, fondent le gouvernement général de Turkestan en 1867 aussi.
Ouais.
Et les Britanniques ne peuvent pas rester là sans rien faire. Et du coup, ils déclenchent une deuxième guerre, la deuxième guerre anglo-afghane en 1878.
D'accord, donc 42-78, quelques décennies après.
Voilà. Ouais. Au terme de laquelle, ils prennent le contrôle de la politique étrangère du royaume, ainsi que la guerre de la passe de Khyber. Donc là, l'Afghanistan n'est plus vraiment autonome.
Là, l'Angleterre a gagné la deuxième guerre.
Oui, là, exactement. Puis les frontières afghanes se fixent progressivement, surtout sur l'influence britannique qui domine cette région pour l'instant. Ainsi, le 12 novembre 1893, un accord entre l'émir afghan Abdurrahman Khan et Sir Mortimer Durand, représentant de l'Empire britannique, fixe la frontière entre l'Afghanistan et l'Inde britannique. Le problème est que cette frontière divise artificiellement les Pashtuns, qui ont une langue et une organisation sociale commune.
Ouais, c'est une chose qu'on verra beaucoup dans la colonisation, des frontières qui coupent en deux une ethnie.
On ne prend pas compte de la vie des ethniques.
Tout à fait.
De ce fait, elle s'avère difficile à contrôler, cette frontière, puisque cette ligne Durand existe encore aussi de nos jours, et elle est toujours une source de conflit entre le Pakistan et l'Afghanistan.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Mais revenons donc à notre grand jeu qui perdure et se déplace vers l'Est. Les Britanniques envahissent Lhasa en 1904 afin de prévenir une alliance entre le tsar Nicolas II et le Dalai Lama. La défaite des Russes face aux Japonais en 1905 et la montée en puissance de l'Allemagne, notamment au Moyen-Orient et dans l'Asie-Pacifique, poussent finalement les deux rivaux à s'unir, à s'allier dans le cadre de la Triple Entente. Il a préparé finalement la première
guerre. Donc tu parles des Russes et des Anglais là.
Voilà.
D'accord, qui vont s'allier à travers la Triple Entente.
Ouais, en 1907, ils arrivent à s'allier. Et ils délimitent des zones d'influence à chacun sa zone.
Finalement. D'accord, ouais, ok.
La Russie donc abandonne l'Afghanistan à l'influence de l'Angleterre qui exerce alors sur le pays un semi-protectorat.
Voilà. D'accord.
Les révolutions russes de 1917 et les affrontements qu'elles entraînent de la mer Noire à la Chine entre bolcheviques, monarchistes, forces britanniques, alimentent l'idée d'un nouveau grand jeu sur une base idéologique, cette fois-ci inédite, puisqu'on parle aussi du communisme.
Voilà, communisme ou capitalisme en quelque sorte.
Voilà. Dans les années qui suivent, la prétention bolchevique à faire de l'Asie centrale une tête de pont vers la Chine, l'Inde et l'Iran alimentent l'inquiétude des autorités britanniques, alors même que la contestation anticoloniale monte depuis 1919. D'ailleurs, la troisième guerre anglo-afghane permet de rendre à l'Afghanistan sa complète indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni. Là, on est en 1919.
D'accord.
Ensuite, on a un roi en Afghanistan qui est proclamé en 1923, qui s'appelle Amanullah. Pardon. Il entreprend en 1928 de moderniser l'Afghanistan selon les principes de la Turquie kémalienne.
Ouais.
On s'inspire aussi de
l'exemple de Kemal en Turquie. Oui,
voilà. Mais un soulèvement populaire le contraint à abdiquer en 1929. Après une période de désordre, le général Nadir Shah s'empare du pouvoir et se fait proclamer roi. Mais lui, il est assassiné en 1933. Du coup, c'est son fils qui prend la relève, Mohamed Zahir Shah, qui parvient à préserver la neutralité du pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on est sorti du grand jeu.
Donc pas mal d'instabilité politique à partir de leur indépendance, mais quand même, ils réussissent à rester à peu près neutres pendant la Deuxième Guerre mondiale, pas trop étant brigadés.
C'est la guerre froide qui va réactiver un peu cette notion de grand jeu, hein, notamment lorsque Staline va avoir des velléités sur l'Iran et la Turquie.
Toujours, en fait. Hein, tu l'as dit tout à l'heure, les bolcheviks, au début, c'était pareil. En fait, ils lâchent pas le morceau. Quoi.
Exactement. Et l'imaginaire américain de la guerre froide se nourrit volontiers de ce précédent hein, qui donne une légitimité à la lutte du monde libre, finalement, contre le communisme.
Bien sûr, on va habiller ça sous ces couleurs-là. Voilà. Le monde libre contre le communisme.
Et le pouvoir afghan, malgré tout, arrive à garder des bonnes relations aussi bien avec l'Union soviétique qu'avec les États-Unis.
D'accord, ils réussissent à faire ce numéro d'équilibrisme.
Voilà. Et ils en profitent même pour recevoir de l'aide des deux superpuissances.
D'accord.
D'ailleurs, au niveau de l'aide, c'est plutôt les soviétiques qui ont réussi à gagner. Là, ils ont réussi à donner des milliers de bourses d'études en URSS qui ont été offertes à des jeunes afghans. Ainsi, ingénieurs et officiers afghans prirent le goût à la volka, aux jeunes blondes russes.
Et là, on est dans les années 60 à peu près, je pense.
C'est
non,
un cliché, 60,
c'est
ça.
C'est un peu cliché, mais voilà.
Bah
c'est
ouais, mais
ça,
c'est un cliché qui correspond à la réalité, je présume.
Voilà.
D'accord.
Et bon, sans transition, il y a le régime afghan qui se transforme quand même à ce moment-là, à cette période-là.
Ouais.
Et qui arrive à avoir une constitution en 1964 qui fait de l'Afghanistan une monarchie parlementaire.
D'accord.
C'est alors le temps du roi Zahir Shah. C'est une période plutôt bénéfique, là, enfin, pour les femmes afghanes qui s'émancipent.
Bah ouais, ça fait quand même une sacrée progression, quand même, une monarchie parlementaire. Fait un pas en avant énorme. Hein.
Pourtant, ils ont eu le droit de vote dès 1919, mais en dehors de cela, il n'y avait pas vraiment de réelle émancipation. C'est vraiment dans les années 60 qu'elles parviennent à avoir accès à l'éducation. Bon, il faut quand même nuancer un petit peu cela, parce que cet accès à l'éducation était réservé aux femmes de l'élite de Kaboul.
Oui, bien sûr.
Dans les campagnes et dans la grande majorité de l'Afghanistan, l'émancipation, ça n'existait pas encore.
D'accord.
Ensuite, on a eu quand même plusieurs années de sécheresse qui vont compromettre la modernisation et l'essor du pays.
Ah.
Et dans un climat de malaise croissant, le général Daoud Khan s'empare du pouvoir en juillet 1973. Il dépose le roi Mohamed Zahir, puis proclame la République et entend gouverner seul le pays.
Très bien, on va faire une première pause musicale. Nous allons écouter, alors je ne sais pas du tout ce que nous allons écouter, donc on va faire comme d'habitude. C'est la surprise et on désannoncera après. C'est parti Mathieu.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
Calade.
Vous écoutez Poker Menteur sur Calade 100.9. Notre émission de ce mois est consacrée à l'Afghanistan en compagnie de Jean-François et Geneviève. Et Geneviève, elle va nous dire... qu'est-ce qu'on a écouté, Geneviève, hein?
Écoute, un très joli morceau qui est issu d'un album qui s'appelle Ludi Musici, qui est sous la baguette de Jordi Savall.
Jordi Savall. D'accord, ouais.
Musique baroque, mais pas que. Mm-hmm. Et donc, il était avec son orchestre Hesperion 21, son épouse, Montserrat Figueras. Et du coup, il a voulu restituer par différents morceaux orientaux l'esprit de la danse.
D'accord. Ouais, c'est pas mal restitué.
Entre, on va dire, la fin du Haut Moyen-Âge jusqu'à l'époque classique.
D'accord, très bien. Alors Fabienne, puisque tu as la parole, et même Fabienne, excuse-moi, je t'appelle Fabienne. Bon, mais Geneviève, c'est bien aussi, hein.
Oui,
Tu
verras ça avec mes parents.
Donc désormais, ton deuxième prénom, c'est Fabienne. Mais on va rester avec Geneviève, puisque tu as la parole, tu vas la garder. Et tu vas nous parler des enjeux de la guerre froide, c'est-à-dire de la période des années 70-80, puisqu'on s'est arrêté juste à l'orée des années 70 avec Jean-François.
Voilà, alors une période qu'on connaît peut-être un petit peu mieux, parce que plus proche de nous, mais pour autant très complexe.
Ouais.
Alors je vais faire un raccourci rapide, hein. En clair, on est content, ils ont une monarchie constitutionnelle, tout va bien, sauf qu'en fait, ben non, ça ne fonctionne pas du tout. Et donc, cette monarchie, elle est renversée par un coup d'État en 1978, le 27 avril, coup d'État communiste qui met fin donc cette monarchie. Le leader du Parti démocratique du peuple afghan, donc PDPA, retenez bien ce nom puisqu'on va en parler plusieurs fois. Donc Nour Mohamed Taraki prend le pouvoir, il instaure une dictature, hein, tant qu'à faire, d'obéissance.
C'est un parti pro-soviétique, on est d'accord?
Ah bon, on est tout à fait d'accord, ce sont des marxistes.
Ouais.
Et donc, il permet à l'URSS, grâce à la signature d'un traité d'amitié et de coopération, en décembre 78, d'étendre davantage son influence sur le pays. Donc voilà, Patrick.
Le bon vieux traité d'amitié qui va permettre aux Russes, enfin aux
d'installer
Soviétiques,
sous main leurs marionnettes et leurs intérêts politiques et militaires.
Mmh.
Alors, peut-être juste un petit feedback. L'influence des communistes, est directement liée à l'éducation des nouvelles couches de la population. Ce sont des populations donc, qui demeurent exclues du jeu clanique et politique et qui voient le pays s'enfoncer dans une arriération économique. Donc, du coup, les idées de gauche véhiculées par l'URSS apparaissent comme des idées modernes qui vont permettre au pays de sortir...
Des voies de sortie un peu de ce Moyen-Âge, en quelque sorte, quoi.
Oui, si on peut dire, oui. Je suis d'accord.
Au moins sur un plan économique, on va dire.
Voilà. Mais cette prise de pouvoir qui provoque quand même l'exil de plus de 100 000 personnes, qui ravive des tensions entre les différentes factions au sein de ce PDPA. Et Taraki, qui est soutenu par les soviétiques, va mener des réformes quand même profitables et bénéfiques pour la population. Tout d'abord, il va œuvrer pour l'alphabétisation de la population des villes et des campagnes, parce qu'on l'a bien compris avec ce que Jeff nous a expliqué, il y a une vraie différence entre un clivage entre les villes et les campagnes.
Tout à fait.
Il va aussi contribuer à redistribuer des terres pour les paysans plus pauvres. Donc c'est un homme qui va du coup mener des actions positives. Malheureusement, il ne fait pas du tout l'unanimité et son rival, qui est aussi son premier ministre, Hafezullah Amin, va organiser ni plus ni moins que son assassinat en septembre 79.
La bonne ambiance.
C'est ça. C'est pas fini, hein, c'est que le début. Les soviétiques n'avaient pas du tout prévu ça et ils jugent que Amin est un petit peu trop radical. Donc ils vont en profiter pour mener une opération coup de poing. Il l'assassine. Lui aussi, le 27 décembre.
Mais là, tu parles des soviétiques, là.
Oui, complètement.
D'accord. Ils n'ont pas apprécié, donc.
Du coup, il était un petit peu trop extrémiste à leur goût.
D'accord.
Ouais, ils sont amis, mais s'ils peuvent contrôler ce qui se passe à table, c'est quand même plus simple pour eux.
Toujours, oui.
Voilà, question de principe. Et donc, ils vont mettre à sa place quelqu'un de beaucoup plus modéré, Barbak Karmal, qui prend la tête du pays.
Ouais.
Alors, au départ, Karmal Babrak, il est quand même plutôt accueilli avec soulagement. Il perd malheureusement beaucoup de sa popularité parce que, tout simplement, le peuple est fatigué par ce régime. Ils en ont ras-le-bol de voir des militaires soviétiques. Et en parallèle de cette présence soviétique, n'oublions pas que l'arrivée de Karmal va déclencher aussi une guerre civile.
Ah oui.
Et les rebelles organisent des attaques contre leurs opposants. Et ils vont bientôt prendre le dessus. Et l'URSS, qui reproche la situation à Karmal, le retire du pouvoir en 86 et vont lui donner exil en Union soviétique.
D'accord. D'accord, d'accord. Donc là, on est dans les années 80. 86, c'est vraiment, ouais. C'est la guerre civile. Il y a, enfin, ils contrôlent pas le pays, quoi, en quelque sorte.
Non, ils contrôlent pas le pays et les raisons de leur intervention restent quand même un petit peu obscures. C'est-à-dire que c'est en partie pour protéger leurs ressortissants, dont une partie avait péri lors des massacres perpétrés par l'opposition islamiste. L'Union soviétique décide alors d'envoyer l'armée rouge. Mais ce pouvoir est très vite assimilé au parti de l'étranger et il n'est pas du tout populaire en Afghanistan. Et donc ce pouvoir va susciter une opposition de plus en plus forte et organisée sur ses bases claniques, ethniques, religieuses. Donc d'un côté, les Hazaras, donc qui sont chiites, qui sont dans l'ouest et le centre. Et donc ces Hazaras vont vite reprendre le contrôle de leur région. Et ils vont s'opposer donc aux sunnites, qui sont majoritaires partout ailleurs.
Ouais, et là, on voit émerger ces fameux conflits chiites-sunnites à travers des logiques de territoire. Hein. Certains contrôlent une partie, d'autres parties. Et comme c'est des territoires hyper morcelés, c'est facile d'arriver à en prendre le contrôle et de résister aux ethnies d'à côté. Quoi.
Ouais, et de mettre en place une véritable guérilla.
Et donc là, l'URSS est au milieu de ce merdier. Quoi.
C'est
ils
ça.
Ils sont embourbés.
Ils sont complètement embourbés. Et tu rajoutes à ça que, d'un point de vue international, du coup, cette guerre commence à être vraiment une sale guerre, une mauvaise guerre.
Et réputation
elle
terrible.
A très
pour l'URSS.
Ouais. Complètement. Et donc, du coup, l'URSS se retrouve dépourvue de logistique adéquate pour faire face à cette guérilla, qui est bien mieux entraînée qu'elle, qui connaît le terrain,
Ils connaissent le terrain, un terrain très particulier.
Et ils ne parviennent pas non plus à mobiliser la population soviétique pour envoyer au front sa jeunesse, bizarrement. Nous n'oublions pas, on est en 86, l'idéologie communiste commence à être moins populaire aussi auprès...
fatiguer sérieusement.
C'est comme votre chef.
Tout à fait.
Et donc, à partir de là, eh bien, l'intransigeance des dirigeants de l'URSS, malgré les demandes réitérées de l'ONU de retirer les troupes soviétiques, l'importance des enjeux internationaux vont conduire tout simplement à une impasse. Impasse de laquelle Mikhail Gorbatchev va tenter de sortir dès son arrivée au pouvoir. Les États-Unis concentrent leur aide par l'intermédiaire du Pakistan et avec le soutien actif de l'Arabie saoudite vers les sunnites Pachtounes, tandis que l'Iran chiite, qui vient d'achever sa révolution islamiste, soutient les Hazaras.
Ah ouais, donc ils sont soutenus largement par les uns par les autres, États-Unis, Iran, enfin c'est pas les mêmes qui sont soutenus, mais ça
chacun
fait un afflux d'armes en tout cas et d'argent. Hein.
Complètement. Dans ce contexte, le gouvernement ne parvient pas à imposer son régime. Les réformes sont trop brutales envers les paysans. Et donc, tout cela ne fait que renforcer l'opposition. Donc, le nouveau dirigeant, Mohamed Najibullah, donc juste là qui était chef des services secrets, va prendre la tête du pouvoir et devient officiellement chef de l'État en 1987. Il lance un appel à la réconciliation nationale et fait adopter en novembre une constitution qui n'a plus rien de socialiste. Le 14 avril 1988, un accord est signé à Genève entre le Pakistan, l'Afghanistan, les États-Unis et l'URSS qui prévoit le retrait sur 9 mois des troupes soviétiques du territoire afghan.
D'accord.
Accords bilatéraux qui garantissent l'intégralité politique de l'Afghanistan vis-à-vis de son voisin en formulant le retour des modalités des réfugiés. Mais le départ des troupes de l'armée rouge est loin de mettre fin à la guerre civile.
Oui, bien sûr. Mais officiellement, c'est à partir de 88 qui s'en vont les
soviétiques.
D'accord. Voilà. Mais la guerre civile continue derrière, on s'en doutait un peu.
Et chacun de son côté s'était engagé à ne plus fournir d'armes non plus, ni aux chiites, ni aux sunnites. Tu prends le relais, Jeff ?
Allez, je prends le relais.
On arrive donc aux années 90 et cette fois-ci, c'est Jeff qui va prendre le relais parce qu'on va parler islamisme bientôt.
Oui, allez, on va commencer. Ouais. On va justement revenir sur la guerre civile parce qu'effectivement, on est en pleine guerre civile, comme l'a dit Geneviève, sur effectivement les quatre groupes dont elle a parlé, les Pashtuns, les Tadjiks, les Hazaras et les Ouzbeks qui se livrent une guerre. Profitant de ces affrontements, un nouveau mouvement apparaît alors, celui des talibans.
Ah.
Ils sont très majoritairement issus des tribus afghanes Pashtuns,
d'accord,
dont de nombreux membres se sont réfugiés au Pakistan voisin à partir de 1979, où ils se sont formés dans des écoles coraniques, puis ils sont revenus en Afghanistan pendant la décennie d'invasion soviétique pour affronter l'armée rouge. En 1994, sous la direction du Mollah Omar, ce mouvement semble capable de résoudre la guerre civile. Fort d'un projet politique s'appuyant sur les structures traditionnelles de la société afghane, comme sur une application stricte de la charia,
la loi islamique. Une vision hyper traditionnaliste de l'islam.
Exactement. Les talibans, ils vont rallier une majorité de la population qui est fatiguée de la guerre. Depuis 1979, l'Afghanistan est en guerre, donc c'est compliqué.
Ouais.
En 1994, ils s'emparent de la province de Kandahar. En 1995, ils étendent leur contrôle à tout le sud du pays, confiant l'administration des villes aux dignitaires religieux. et ils s'emparent de Kaboul en septembre 1996, où ils imposent l'émirat islamique d'Afghanistan, tout en luttant contre les derniers mouvements armés regroupés notamment dans l'Alliance du Nord, dirigée par le fameux Tadjik Massoud, le commandant Massoud.
Bon, globalement, ils ont gagné la guerre civile, quoi. Voilà, ils ont réussi à prendre le pouvoir, même s'il y a toujours des résistances, mais voilà.
Voilà, ils ont réussi à prendre le pouvoir. Ils se permettent d'accueillir aussi Al-Qaïda, hein, du fameux Osama Ben Laden.
Qui, dans les années 90, avant le fameux choc de 2001, n'est pas encore hyper connu, enfin, du grand public, en tout cas.
Oui, mais il s'entraîne, effectivement, il fait entraîner, il a sa base, donc Al-Qaïda, en Afghanistan. Alors, les talibans, ils doivent leur succès à trois appuis distincts. Celui d'abord de l'ethnie Pashtoun, qui est traditionnellement détentrice du pouvoir en Afghanistan. Hein.
La plus puissante, en fait.
Ethnie. Voilà, la plus nombreuse, la plus puissante.
Nombreuse.
Ouais. Néanmoins, si le groupe trouve son origine dans les régions Pashtoun, il ne revendique pas pour autant cette identité ethnique. Pourquoi ? Parce qu'il préfère fédérer.
Au nom de l'islam.
Au nom de l'islam, au nom de tous les Afghans. Les talibans sont également aidés par le Pakistan voisin, hein, on l'a
bien
dit,
sûr.
On le sait, désireux d'installer un régime ami dans un pays d'une importance vitale pour lui. Et enfin, les talibans ont bénéficié de l'appui financier de l'Arabie Saoudite et des États-Unis, hein, plus surprenant.
Et oui, lors de la résistance contre l'URSS, ils ont reçu armes et argent, je pense.
Ouais, exactement. Ouais. Par ailleurs, le nationalisme islamiste constitue la pierre angulaire du mouvement. Les talibans, qui se définissent comme un acteur étatique, ont réussi à acquérir des compétences régaliennes qui sont traditionnellement associées à un État. D'où, à leurs yeux et aux yeux de leur soutien, la légitimité de leur usage de la force. C'est parce qu'ils représentent l'État qu'ils ont le droit d'user
La force. Violence légitime qui est celle de l'État. Ouais. La seule violence légitime, c'est celle de l'État. Donc, ils considèrent qu'ils l'ont, ce droit à la violence légitime.
En plus de leurs ressources idéologiques, ils ont aussi des ressources matérielles, financières et diplomatiques qu'ils ont réussi à avoir. Alors, notamment, ils ont récupéré toutes les armes des Soviétiques.
Ouais.
Donc, ça leur fait pas mal. Ils ont récupéré les armes que les Occidentaux leur ont vendues pour affronter les Soviétiques.
Tout à fait.
Donc, ça fait déjà de quoi tenir bien le pouvoir en Afghanistan. Sur le plan financier, la culture de l'opium et le trafic de drogue constituent une source centrale de revenus pour l'organisation. S'y ajoutent d'autres activités criminelles, telles que les extorsions, le trafic de bois, les extractions minières illégales, les kidnappings et j'en passe. Alors on revient sur ce que disait Geneviève au début. En 2001, ils détruisent les statues de Bouddha pré-islamiques de Bamiyan.
Et c'est là qu'on commence à entendre parler d'eux au niveau international.
Voilà, c'est tout à fait.
On dit ces espèces de barbares qui viennent détruire des statues de Bouddha millénaires.
Ils apparaissent vraiment là sur la scène internationale.
Ouais.
Ils enchaînent le 9 septembre 2001, ils assassinent le commandant Massoud.
Ouais.
Et encore plus, le 11 septembre 2001, l'attentat des tours jumelles.
Boum, badaboum,
qui est orchestré par Oussama Ben Laden et Al-Qaïda, qui sont protégés par les talibans d'Afghanistan. Du coup, les États-Unis interviennent en Afghanistan avec une forte coalition de l'OTAN. Ils sont aidés par les combattants de l'Alliance du Nord. Et le but pour les États-Unis, c'est abattre le régime taliban et détruire Al-Qaïda avant de passer la main à de nouvelles structures politiques afghanes. Alors, en deux mois, la campagne militaire est assez efficace et rapide. Elle est basée sur des frappes aériennes combinées à des infiltrations de forces spéciales qui permettent de chasser les talibans et de les pourchasser dans les zones montagneuses de l'Est.
Ouais.
Les objectifs des Occidentaux sont alors de protéger le monde des attentats, sortir les Afghans de la barbarie et gagner les cœurs avec un gilet pare-balles. Hein, c'est une formule de Bernard Kouchner, qui était alors ministre des Affaires étrangères.
Ouais.
L'essence de la formule.
Voilà.
Ouais.
Les moyens humains et financiers attribués à ces objectifs sont quand même énormes.
Ouais.
Par exemple, il y a jusqu'à 130 000 soldats qui sont déployés pour aider à sécuriser le pays contre la résistance des talibans.
Ouais.
Ensuite, on a un gouvernement intérimaire qui est créé, qui est nommé, avec à sa tête Hamid Karzai.
Le fameux Hamid Karzai, qui va rester longtemps alors au pouvoir.
Il va rester longtemps, tout à fait. En 2004, il parvient à remporter la première élection au suffrage universel de l'histoire de l'Afghanistan. Donc, il devient président de l'Afghanistan. Tout n'est pourtant pas rose, puisque cette même année, en 2004, l'Afghanistan est redevenu le premier pays producteur mondial de pavots.
Et oui, paradoxalement, en fait, la production de pavots va redémarrer très fort à partir du moment où les talibans se sont fait foutre dehors, parce qu'eux, ils avaient plutôt réduit la production de pavots.
Voilà, donc le pavot qui est utilisé pour faire de l'héroïne et
de l'opium.
En 2005, les talibans, ils refont surface, ils n'ont pas disparu.
Ouais, bien sûr.
Ils sont soutenus en secret par le Pakistan. Mmh. Ils lancent des actions de plus en plus audacieuses. Ils refusent l'engagement frontal, hein, parce qu'ils se rendent compte que frontalement, c'est
un rapport de force trop déséquilibré.
Il y a bien une guerre asymétrique qui est en train de se faire.
Ouais.
Hamid Karzai, lui, est réélu en 2009 dans un scrutin marqué par une fraude massive, une forte abstention et des violences commises par les talibans qui agissent aussi en direction de la population.
Ouais.
Voilà. Alors Barack Obama, du coup, contre l'avis de Joe Biden, qui est alors son vice-président, décide de renvoyer massivement des troupes en 2009. Mais après qu'Oussama Ben Laden ait été tué en mai 2011 au Pakistan, l'opinion américaine ne suit plus et les États-Unis amorcent leur retrait dès juin, pivotant vers un soutien du gouvernement afghan et arrêtant les combats actifs.
Ouais.
En 2014, l'OTAN met fin à sa mission de combat. Tout de même, 12 500 soldats restent afin de former les troupes afghanes et mener des opérations antiterroristes.
Mais enfin, on n'est pas quand même passé de 130 000 à 12 500. Donc il y a quand même une baisse radicale.
Moins de présence.
Moins 90%.
Exactement. Ensuite, on peut faire un petit bond jusqu'en 2017, où dans un premier temps, Donald Trump, nouveau président des États-Unis, décide d'arrêter le retrait, d'abord. Puis, il envoie des milliers de soldats sur place. Les attaques meurtrières menées par les insurgés s'amplifient, tandis que les États-Unis intensifient les frappes aériennes. Finalement, après un engagement très coûteux, 1 000 milliards quand même de dollars, 2 400 morts, 20 400 blessés, parmi les soldats américains, seulement les soldats américains. Donald Trump annonce en décembre 2018 son intention unilatérale de se retirer du pays. Ainsi, après les discussions débutées en 2018, États-Unis et talibans parviennent à signer un accord historique à Doha en février 2020 qui ouvre la voie au, au retrait
américain
le 30 août 2021 dernier. Grande date, le 30 août.
On va faire une deuxième pause musicale. C'est parti sur Pink.
Poker menteur.
Poker menteur.
Galade.
Vous écoutez Poker Menteur sur Calade 100.9. Notre émission de ce mois est consacrée à l'Afghanistan. On a déjà appris pas mal de choses grâce à Jean-François et Geneviève sur l'Afghanistan. Nous venons d'écouter, cette fois-ci je connaissais, hein, Led Zeppelin, Cachemire, donc morceau célèbre un peu long, donc on a un petit peu tronçonné. Jean-François, nous allons à nouveau te laisser la parole. Tu nous as pas mal expliqué hein, l'avancée des années 2000-2020. Alors on va faire une sorte de bilan rapide. Qu'est-ce que tu peux nous faire comme petit bilan rapide de la présence occidentale en Afghanistan?
Alors déjà, sur le coût humain du conflit, on peut dire que les Afghans sont les premières victimes puisque l'armée afghane a perdu 27 fois plus d'hommes que les Américains.
Ouais,
néanmoins, ces 20 ans de présence américaine ont connu quelques succès. Le pays était en ruine en 2001
ouais.
Et l'argent des ONG et des États-Unis a permis de construire de nombreuses infrastructures. Surtout, une nouvelle génération afghane a vu le jour. Cette génération a bénéficié d'une véritable éducation et a grandi avec une vision plus
ouais.
ouverte du
monde. Ouais, mais quand même, ouais.
Les jeunes filles et les femmes sont les grandes bénéficiaires de ces 20 années.
Mmh.
Outre l'accès à l'éducation, des femmes ont été élues au Parlement et la part des femmes sur le marché du travail a progressé de manière très nette depuis 2001,
ouais.
atteignant 21% en 2019 selon l'Organisation internationale du travail.
Bref. D'accord.
Cependant, et c'est un euphémisme, les Occidentaux partent sans garantie de pérennité de leur réalisation.
Ouais, ouais.
Surtout, ouais, en fait, et puis surtout, les investissements effectués par les Occidentaux dans le développement de l'Afghanistan n'ont pas réussi à porter leurs fruits à cause de la croissance démographique afghane.
Ouais.
Grosso modo, il faut imaginer que sur 20 ans, la population afghane double.
Ah ouais.
Et il y a tellement de personnes que l'argent infusé ne parvient pas à développer durablement
incroyable.
Le pays.
Ouais, d'accord.
Voilà.
Il y a quand même, il y a des problèmes de corruption absolument monstrueux. L'argent a été massivement détourné par Karzai et sa bande pendant 20 ans. Quoi.
Et c'est pour ça aussi que les populations sont parties assez rapidement vers les talibans, parce qu'au moins, avec les talibans, il y a l'ordre. Voilà.
Ouais, ouais, tout à fait.
Sans l'ordre de moralité.
Ouais, c'est ça, tout à fait.
Alors le tort des Occidentaux, c'est quand même d'avoir finalement voulu imposer leur propre vision du monde hein,
ouais,
dans
sûr.
Un pays
bien
ultra sûr. Conservateur.
Et puis un pays qui n'a pas du tout les mêmes structures sociales, sociétales, économiques, ouais, mais c'est n'importe quoi. Enfin, alors c'est très américain, quoi.
Oui, voilà, tout à fait.
Alors maintenant, nous allons passer la parole à Geneviève. Tu vas nous parler de l'Afghanistan aujourd'hui, en quelque sorte.
Hein.
Les Américains sont partis, les talibans sont de retour. Et tu vas nous parler plus précisément des femmes et d'éducation.
Exactement. Alors déjà, je voulais juste vous dire que si vous nous avez bien écoutés, eh bien, il faut savoir que vous en savez, chers auditeurs, beaucoup plus que n'importe quel Afghan sur son histoire,
ouais.
puisque l'enseignement de l'histoire est interdit en Afghanistan depuis le premier passage des talibans. Et je trouve que c'est assez significatif, parce que quand on prive un peuple de ses racines, ben quelque part, on le rend aussi beaucoup plus malléable,
ouais.
évidemment.
Ouais.
La deuxième chose malheureuse et qui va contribuer à cet aveuglement, à cet obscurantisme, c'est le fait que, tout simplement, entre 1996 et 2001, la moitié de la population, appelons-le, hein, qui a déjà doublé, cette moitié de population, qui est une population féminine, est empêchée d'aller à l'école, ni plus ni moins. Voilà, les fondamentalistes sunnites empêchent la quasi-totalité de ces petites filles d'avoir accès à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Après leur départ en 2001 et dans les 20 années qui vont suivre, ce taux d'alphabétisation va augmenter, va pratiquement doubler. Ce qui va permettre donc à ces jeunes filles d'être plus libres, plus indépendantes. Mais elles vont toujours rencontrer des difficultés pour participer à la vie publique de ce pays. Donc en clair, on l'a dit tout à l'heure, les Afghanes, elles peuvent voter depuis 1919, participer au gouvernement, être élues au Parlement. Et d'ailleurs, un tiers des 6 millions d'enfants scolarisés sont des filles au niveau du primaire. Mais pour autant, elles ont un accès très limité à cette représentativité. Depuis 2001, donc, les progrès ont été accomplis, mais cette insécurité va renforcer du coup cette chape de plomb qui tombe sur la population féminine.
Et oui, parce que là, on ne sait pas du tout ce qu'il va demeurer de tous ces progrès. Hein.
Alors, probablement pas grand-chose.
Ouais.
Aujourd'hui, l'UNICEF souhaiterait que, de la même façon que pendant le Covid, on a pu mettre en place un enseignement distanciel, eh bien, aujourd'hui, on encourage les enseignants et les enseignantes à reprendre, du coup, leurs cours et à pouvoir enseigner aux jeunes filles à distance, ce qui sous-entend évidemment un accès informatique, internet, etc., qu'on devine très facile et aisé.
Ouais.
Donc en clair, autant dire que c'est un vœu pieux, ce serait bien, mais est-ce qu'on y croit beaucoup ?
Bah, vu les moyens niveau socio-économique du pays, on n'y croit pas trop, effectivement. Jean-François, on te redonne la parole sur une thématique importante quand même. Je l'ai vaguement évoqué, la notion d'islamisme. Il faudrait qu'on en dise un petit peu plus.
Oui, parce que finalement, on peut se poser la question de savoir si les talibans ont vraiment gagné. Est-ce qu'ils ont encore des adversaires? Eh bien oui, finalement, ils ont encore un adversaire qui lui ressemble assez. C'est Daesh.
Oui, voilà. Daesh qui arrive et qui
commet énormément d'attentats en ce moment en Afghanistan.
Ouais, ouais.
Alors rappelons aussi que les talibans se disent d'abord nationalistes. Ils veulent le pouvoir dans leur propre pays, le dirigent à leur guise.
Ouais.
En cela, ils se différencient donc de Daesh, qui se veulent internationalistes. D'accord ?
D'accord, ouais.
Pour les talibans, il s'agit de diriger la nation afghane. Pour l'État islamique, c'est d'exporter partout un régime qu'ils appellent islamiste.
D'accord.
Les deux mouvements sont donc incompatibles. Daesh fustige donc le succès des talibans qui a été obtenu dans la compromission, d'après eux, la compromission de la négociation, plutôt que par le djihad armé. D'ailleurs, la facilité avec laquelle les talibans ont pris le pouvoir dans les derniers jours de la présence américaine est invoquée pour preuve de cette compromission.
D'accord.
Et les récents attentats en Afghanistan revendiqués par Daesh ont ainsi rappelé la fragilité de la position des talibans en les mettant face à la responsabilité d'assurer la protection de leur population contre le terrorisme.
Ouais, maintenant ils se retrouvent dans la position de l'arroseur arrosé quelque part et devoir faire ce qu'ils ont vu leurs opposants tenter de faire face à eux pendant des décennies. Maintenant c'est à eux de souffrir de ça et ils vont comprendre, enfin, je pense qu'ils sont en train de comprendre que c'est pas simple, hein. C'est pas simple à gérer ce type d'opposition dans un pays pareil. D'accord, très bien. Mais Daesh, ils sont arrivés quand à peu près? Alors en Afghanistan, à quelle période ils sont apparus? Parce qu'on dit qu'ils sont là, mais...
C'est dans les années 2010.
Ah ouais, d'accord. Ouais. De façon très discrète alors, parce qu'on n'en parlait pas, visiblement. Ok, très bien.
Il y a une fourmilière en fait de groupes terroristes en Afghanistan, au Pakistan,
oui, bien sûr,
en Ouzbékistan, bien sûr. Tout le tour.
Mais Daesh est actuellement le plus puissant opposant
et le plus dangereux.
Oui,
tout à fait.
Ouais, d'accord, très bien. On va peut-être finir par un petit 2-3 choses sur l'économie de l'Afghanistan, 2-3 informations factuelles, on va dire, pour que situer un peu de quoi on parle. Déjà, c'est un pays de 39 millions d'habitants. On avait dit que la population est doublée, mais combien sont-ils? Ils sont 39 millions sur un territoire plus grand que la France, on l'a dit au début. Hein, donc, on voit que ça reste quand même un pays assez éclaté, avec en plus une partie montagneuse dominante. L'Afghanistan, c'est devenu quoi? Un des pays les plus pauvres et les moins développés au monde. On s'en serait douté. 80% de la population, enfin plus de 80% travaillent dans le secteur agricole. Dans un pays développé, le secteur tertiaire, c'est 80% de la création de richesses. En Afghanistan, le secteur tertiaire, c'est 13%. Oui, on est vraiment sur des structures très archaïques, voilà, exactement. Alors, il y a eu ces 20 dernières années, on l'a vu avec Jean-François, une aide occidentale massive, sauf qu'elle a été massivement détournée, comme on le disait. Le secteur agricole, qui est dominant, il a été très violemment perturbé par les conflits armés, qui génèrent des déplacements de population. Et plus récemment, il y a, le réchauffement climatique, il y a des périodes de sécheresse 2018, d'inondations tout aussi violentes en 2019, qui aggravent encore la situation au niveau de l'activité agricole. On l'a dit tout à l'heure que le commerce de l'opium était quelque chose de très important, qui était reparti fort dans les années 2010 environ. L'opium, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin d'autant d'eau, autant d'approvisionnement en eau. Et ça tombait bien parce qu'en fait, les conflits avaient complètement détruit le système hydrique, d'irrigation. Et donc, les Afghans se sont massivement tournés vers l'opium parce que ça, ils arrivaient à le cultiver. Puis en plus, ça se vendait bien. On considère que la culture du pavot plus la production d'opium et d'héroïne représenterait environ 20 à 30% du PIB afghan.
C'est énorme.
Monstrueux. Résultat, ils en consomment aussi, bien sûr. 12,8% des Afghans consomment de la drogue, les adultes, contre moyenne mondiale de 5%, évidemment. Sur ces 20 dernières années, une exode rural importante, tu l'as dit, une urbanisation qui s'est accélérée, Kaboul qui passe de 300 000 habitants à 4 millions. Il faut dire que Kaboul s'était vidé avec l'arrivée des talibans à la fin des années 90. Et là, ils sont remontés très fort. Le problème, c'est que l'arrivée au pouvoir des talibans ne fait qu'ajouter un problème de plus aux problèmes innombrables qu'ils ont à gérer, la sécheresse, l'inondation, les déplacements de population. C'est quand même 3,6 millions de personnes déplacées début 2021, d'accord ? L'écrasante majorité reste en Afghanistan, mais ça fait quand même beaucoup de monde déplacé. Et la crise du Covid qui arrive là, un tiers de la population est contaminée au Covid. Donc ça fait un ensemble assez lourd. Espérance de vie en Afghanistan, 65 ans. C'était quand 55 ans en 2000, donc un petit progrès. Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, 60 pour 1000. Alors, je vous donne une comparaison. En Iran, qui est le voisin, 14 pour 1000. Mais au Pakistan, 67. Hein, on ne parle pas du Pakistan, mais bon, il y a mieux hein, au niveau de, de ces aspects socio-économiques, on pourrait dire. Résultat, le programme alimentaire mondial craint une famine, des famines, une insécurité alimentaire et des risques de famine pour cet hiver. Parce qu'on a 97% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Hein. C'était 60% en 2020, c'est tombé à 97%. Oh oui, là, on est vraiment dans un enfoncement terrible de ce pays. L'ONU a réussi à négocier via différents donateurs la somme de 1 milliard de dollars pour aider l'Afghanistan. Alors conditionné par des concessions des talibans hein, sur les respects des droits humains, etc., etc. Bah, le problème, c'est que est-ce que ce milliard de dollars, il va arriver, il va être utilisé efficacement ou est-ce qu'il va être massivement détourné? C'est toute la question qu'on peut se poser. Les talibans contrôlent le pays, tu l'as dit, hein, contrôler c'est très relatif parce que maintenant ils ont une grosse épine dans le pied qui s'appelle donc Daesh. Et donc, je suis désolé, mais on ne voit pas un avenir très très rose pour l'Afghanistan à court terme.
Hein. Ça paraît compliqué, effectivement.
Ouais, totalement. Donc on a fait à peu près le tour de cette présentation d'Afghanistan et surtout cette mise en contexte historique. Mais ce pays reste complètement enfoncé dans une instabilité terrible et sans parler de l'aspect complètement moyenâgeux de la philosophie des talibans. Alors on verra un petit peu ce qu'il en est de l'avenir, mais pour l'instant, on n'est pas très très optimiste. Voilà, on en a terminé. Est-ce que vous avez un mot pour finir, un dernier mot, Geneviève? Non.
Alors écoute, là comme ça, j'ai en tête une légende que j'ai lue en préparant l'émission. En fait, on raconte au Moyen-Âge que Dieu s'est regardé dans un miroir et a vu l'Afghanistan et a tendu du coup ce miroir aux Afghans. Malheureusement, ce miroir s'est brisé et chacun est reparti avec un fragment de cette vérité, de cette histoire.
D'accord.
Et je pense que effectivement, l'avenir semble morose de notre point de vue.
Mais c'est une belle allégorie de ce qu'est ce pays, hein, ce pays fragmenté en ethnies, en guerre civile permanente. Ok, écoute, c'est une belle forme de conclusion. Merci Geneviève. Jean-François, un dernier mot?
Que dire après cela?
Pas mieux.
Ouais, pas mieux. Hein. Merci Geneviève.
Chers auditeurs, au mois prochain. Mathieu, merci. Bonne fin de soirée.
Poker Menteur. Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur. L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Galade 100.9.